with two. Wade puts it up for the win. Yeah, baby.
He did it. He did it.
Bosh, another three. Yes. Kaboom.
Rebound, Bosh. Back out to Allen. History final.
Bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau podcast du Miami Heat France. Un podcast un petit peu freestyle qu'on prend au milieu des 8 matchs de la bubble avec Miami qui pour l'instant en a joué 3 et quand vous écouterez ce podcast on aura joué 4 parce qu'on enregistre juste avant le match contre Milwaukee. Un podcast donc un petit peu freestyle avec déjà une durée réduite, on va essayer de faire un petit peu moins d'une heure pour changer un petit peu d'habitude et parce que d'ici 2 semaines, je pense qu'on aura un podcast preview des playoffs quand on saura enfin qui c'est qu'on affrontera pour la post-season un peu spéciale à Orlando ou à domicile, comme dirait Quentin. Et donc pour ce petit podcast, toute l'équipe est au complet. Quentin est là, salut Quentin.
Salut.
Val est là, bien sûr, salut Val.
Bonjour, bonsoir à tous.
Flo est là de son pays lointain, salut Flo.
Salut les gars.
Et puis Sam est bien là, salut Sam.
Salutations.
Donc voilà, pas de présentation un peu particulière, par manque de temps principalement, mais on en fera une spéciale pour les playoffs. On va commencer sans attendre. Donc pour être complètement transparent vis-à-vis de vous, je fais la présentation parce que j'ai pas vu de match à part celui-là contre Toronto, donc c'est plus les collègues qui vont pouvoir donner leur avis. Les gars, quelles sont vos impressions globales? Que ce soit sur l'équipe en général ou sur un joueur en particulier, parce qu'on sait que par exemple Butler est un peu soit joue pas, soit joue moins, parce que c'est le plus le banc qui met le rythme. Quelles sont vos impressions donc sur ces 3 premiers matchs et sur le niveau de l'équipe après cette pause de plusieurs mois? Quentin par exemple.
Globalement, c'est assez satisfaisant. Après, il y a eu un match où on était un peu moins satisfaisant évidemment contre les Raptors, mais honnêtement ils ont très bien défendu, donc on peut pas vraiment s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et non, sinon plutôt une bonne impression, notamment contre Boston et contre les Nuggets où on a joué notre jeu et on a bien joué.
Alors à noter que les Nuggets en match un petit peu particulier parce que déjà de 1 c'était le match de reprise. Et puis ils étaient amputés, je crois déjà de comme
starters,
c'est le cas.
Ouais.
Alors il y avait pas, je crois, Jamal Murray, il y avait pas Gary Harris et il y avait pas
Will Barton.
Barton, c'est ça. Barton aussi, je crois. Ouais.
Ouais, Barton, c'est ça. Donc le poste 1, 2, 3 titulaire qui n'était pas là. Mais bon, le match était quand même assez largement en notre faveur. Donc voilà, un match un peu particulier. Finalement, la seule défaite, c'est celle de Toronto. Flo, est-ce que c'est une défaite qu'on va plutôt dire de logique ou plutôt d'inquiétante, j'ai envie de dire?
Non, inquiétante, non. Enfin, il y a quand même le clutch qui est pas top parce que Butler, on l'a quand même pris. La première chose quand on l'a pris, c'est qu'on voulait un joueur clutch et pour le moment, c'est pas le cas cette saison. Et le problème, c'est qu'il trouve toujours pas ses marques en fin de match et que Hero nous a pas fait fini le match. Mais sinon, non, c'est pas quelque chose d'inquiétant. Il y a pas de honte à perdre contre Toronto, quoi. Faut se rappeler qu'on a un calendrier méga difficile et qu'on a déjà joué 3 grosses équipes. Donc non, il y a rien d'inquiétant. Et je pense, on n'est pas dans le vestiaire, mais on savait que Spo voulait améliorer la défense et ça a été le cas quand même, donc ça va.
Ouais, on a un calendrier, donc ça on n'en parlera pas forcément parce que voilà, on va dire qu'il y a des déséquilibres un petit peu dans les calendriers mis en place par la NBA, notamment.
On parle plus des flops de Kyle Lowry, quoi.
Ouais, voilà. Si on s'amuse à regarder les calendriers des équipes et qu'on regarde celui notamment des Pelicans, on va commencer à mal parler. Mais pour le match contre Toronto, Sam, je sais pas si tu étais devant, un avis un petit peu sur notre défense plus précisément par rapport à ce qu'ont pu montrer Siakam, Kyle Lowry, qui n'a pas fait un match incroyable d'un point de vue du scoring, malgré le fait que Fred Michael Jordan Van Vliet était là, quoi.
C'est ça. Le problème, je pense, c'est... Enfin, le match, dans sa globalité, et même voilà, sur le résultat et tout, il est frustrant, mais il y a pire. Le problème, c'est que je trouve que ce match, défensivement, il illustre un problème qu'on va avoir forcément, et qu'on a depuis que Winslow ne peut plus jouer, c'est la défense sur le porteur. Parce que même si on est capable de jouer en zone, même si on est capable de switch, tu as quasiment forcément un soit tu auras Nunn, soit tu auras Dragic, soit parfois tu auras Hero. Ça peut être un peu mieux, mais bon, il a quand même ses limitations physiques qui vont être sur le porteur. Parce que tu peux pas vraiment mettre Butler dessus, sinon tu perds ta capacité à couper des lignes de passe et à justement augmenter la défense collective. Du coup, bah, tu te retrouves à avoir un Fred VanVleet qui peut littéralement mettre 100 points si tu lui laisses la chance. Pareil, Laurie qui peut prendre des 3 points en sortie d'écran ou alors après avoir passé le milieu de terrain parce que la défense sur le porteur, elle n'est pas assez imposante. C'est quelque chose qui a, entre guillemets, été corrigé face à Boston et qui laisse entrevoir qu'il y a des possibilités, en tout cas sur la suite. Mais face à Toronto, c'est le truc qui m'a frustré et c'est surtout frustrant. C'est encore plus frustrant parce que sur le reste, le match, il est prenable parce que même si on n'a pas du tout d'adresse au début, même si on prend un grand run, etc., on peut revenir dedans parce qu'on a les armes pour et tout. Mais quand tu te retrouves à devoir courir derrière le score, surtout face à une équipe comme ça qui est capable d'être ultra versatile offensivement et défensivement, bah, avoir un manque de défense sur le meneur adverse, c'est vraiment problématique. Et c'est problématique quand tu peux te taper des équipes de la sorte, parce que si VanVleet il peut te faire des trucs comme ça, bon, Kemba il n'a pas eu énormément d'adresse et il n'a pas énormément joué face à nous, mais voilà, tu te retrouves à possible. Enfin, si on joue contre Ladipo, ça va être relativement pareil. Encore, j'ose espérer qu'il y aura Butler un peu plus souvent sur lui, mais voilà, ça c'est le truc. Gros point noir, je pense, des trois premiers matchs, c'est Fred Jordan.
Il y a le fait aussi que quand Robinson ne fait pas un bon match, ça difficulte vraiment tout offensivement.
C'est clair.
Franchement, ça libère pas beaucoup d'espace, quoi.
C'est ça.
Après, il y a beaucoup de chutes ouvertes qu'on ne rentre pas, je pense. Enfin, excuse-moi, mais je disais, il y a énormément de chutes. Paulini qui rate énormément de chutes ouvertes. Pareil pour Duncan, pareil pour Nunn, qui a littéralement il met zéro field goal carrément. Donc voilà, c'est un match où, au bout du compte, on va jusqu'à la dernière action avec un arbitrage qui va en couille un peu de côté sur la fin. Mais voilà, c'est un match qui est prenable, dans lequel on revient bien, malgré un manque d'adresse qui. Au bout du compte, ne devrait pas se réitérer assez souvent parce qu'on reste quand même la meilleure team de la ligue au pourcentage à 3 points. Mais c'est vrai que face à une équipe comme ça, si tu n'as pas d'adresse et que tu te retrouves à courir derrière le score et en plus tu as un problème de défense sur quelqu'un qui peut prendre feu, ça peut vite causer problème.
Après ce match-là, qui, comme vous l'avez dit, n'est pas inquiétant dans le fond, surtout au vu du calendrier, on a quand même réussi. Alors moi, j'étais assez surpris parce que. Je m'attendais pas à ce qu'on réussisse à faire ça, et c'est justement notre but à la fin de du marché des transferts en février. On avait récupéré Iggy et Crowder notamment pour justement être beaucoup plus solide face à des équipes qui jouaient un peu petit comme Boston. Et donc après cette défaite rageante contre Toronto, avec notamment un BAM qui était un petit peu limité, bien défendu par les Raptors et qui a su se réveiller face à Boston, on a réussi donc à taper les Celtics. Donc moi j'ai pas vu le match, qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance? Est-ce que pour vous Boston était à son meilleur niveau et du coup nous on a fait vraiment une très belle partie, on a un peu profité des circonstances pour aller chercher une victoire dont on a besoin pour tenir notre quatrième place?
Est-ce que Boston était à son meilleur niveau? Déjà je pense pas. T'avais un Kemba un petit peu limité, et en plus quand tu regardes, alors ils ont un petit peu comme nous face à Toronto, ils ont eu un sacré manque d'adresse derrière l'arc qu'on a été en mesure de provoquer. Maintenant quand t'as tes 4 meilleurs joueurs de ton 5 majeur qui sont à 6 sur 22 à 3 points, clairement ça facilite les choses quand t'as l'équipe en face.
Je te coupe, pardon, mais dont le trio Tatum, Hayward et Brown qui sont à 2 sur 15.
C'est ça, voilà. Heureusement que tu as Kemba qui est à 4 sur 7 dans le lot, hein, sinon...
D'ailleurs, Kemba qui n'était pas non plus terrible malgré le fait qu'il ait rentré ses shoots.
Il est à 0 sur 2 dans le reste des tirs.
Kemba, il est limité en termes de minutes. Il avait 26 minutes de jeu.
Ouais, voilà,
il revient blessé. Genou, et du coup il avait limité à 27 minutes, je crois qu'il en joue 26, un truc comme ça, donc ouais, il a pas été fou, il a été relativement bien défendu. Après, autant je trouve que Boston n'a pas été à son meilleur niveau, autant ils ont été bien défendus, ils ont pas mal de bons shoots, bon ils ont des shoots ouverts qui rentrent pas, mais je pense que déjà dès le départ en fait ils ont fait une erreur, ils ont voulu copier ce que Toronto a fait. Toronto a mis Anunoby sur Bam, ça a plutôt bien marché parce que Bam il a pas voulu assez attaquer le panier, ça lui arrive et ça lui arrive souvent et c'est assez chiant quand c'est le cas, mais du coup ce que Toronto a fait, c'est qu'ils ont mis du match Brown en défense. Non seulement Bam il en a profité, mais en plus ça a permis de pas avoir Bam sur un pivot, parce que du coup réciproquement a été mis en défense bah, sur Brown et Tatum, parfois même parfois sur Hayward, les bigs, ils étaient défendus par celui qui était à disposition à l'instant T. Et du coup, ça permettait d'éviter d'avoir le problème, justement, t'en parlais tout à l'heure, Simon, le trade de Crowder, Iggy, etc., qui était fait justement pour défendre face à des petits, il posait toujours le problème de la défense sur le porteur, dont je viens de parler, parce que de toute façon, il y avait tout le monde qui. Enfin, on avait des ailés qui pouvaient défendre sur Kemba, Tatum, Hayward, etc. Enfin, Tatum, Hayward et Brown, mais il y avait toujours Kemba. Là, avoir Bam sur un des trois ailiers, ça permet d'avoir justement quelqu'un de plus petit, genre soit Derrick Jones, même parfois Iggy sur le meneur. Et du coup, il y a eu énormément de styles qui en ont découlé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir remettre en place face à Boston. C'est pas possible de mettre ça en place face à Toronto parce qu'ils ont des bigs qui savent jouer. Si tu laisses Gasol tout seul, il va juste mettre 175 points. Donc, c'est pas une bonne idée. Mais face à Toronto qui a juste Kanter ou alors parfois Thais qui, au pire des cas, s'étire et puis peut shooter de temps en temps, ça peut être ultra intéressant d'avoir Bam sur un plus petit parce qu'on sait qu'il est capable de le faire à 100%. Et ça permet éviter de te retrouver avec Kemba qui fait du Fred VanVleet. Donc ça face à Boston, c'était top.
D'ailleurs, Crowder qui fait, je trouve, sur ce que j'ai pu voir, trois matchs vraiment intéressants, notamment offensivement.
Énorme.
Ouais, sur les petites parties de matchs que j'ai vues et sur la Toronto, je le trouvais vraiment dans le rythme et vraiment efficace dans ce qu'il faisait en attaque. Donc plutôt satisfait de voir qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et d'ailleurs, on va partir un petit peu sur des trucs un peu plus précis. On va commencer par justement faire cet enchaînement avec le fait que Jay Crowder, il est entre guillemets piqué la place de Myers Leonard dans le 5. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt dû au fait que ben, on est dans une ligue un peu small ball et que du coup, Jay Crowder en 4, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir Bam en 4 et Myers en 5 ou inversement? Ou est-ce que vous pensez que tout simplement, Myers manque de rythme et que vu qu'on joue bien comme ça, ben, on va rester comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive à Myers Leonard? Parce que ce n'est pas une blessure, a priori. Il serait en forme pour jouer, mais il ne joue pas.
Je pense que c'est un peu un mix de tout ce que tu as dit. Il y a le fait que bah, Crowder, ça fonctionne bien en 4 avec du Iggy, etc. Que, bah, on joue bien comme ça et que peut-être lui manque de rythme. Il y a aussi le fait que Kelly Olynyk soit enfin bon. Et du coup, forcément, bah, ça laisse moins de place à Leonard. Après, je trouve que dans le match contre Boston, il aurait pu trouver quelques minutes. Parce qu'il y a un moment où Olynyk était cramé. Et il aurait pu le faire rentrer à ce moment-là. Mais bon, après, c'est les choix de Spo, donc on fait confiance. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. C'est pas de chance, quoi, pour lui.
Ouais.
Dans le match contre Boston et également dans celui contre Denver, on est à respectivement 13 et 14 rebonds offensifs de l'équipe en face. C'est là où tu te dis, notamment contre Boston, t'as Kanter qui en prend 5. C'est 5 rebonds, c'est 5 offensifs. Moi, je vois ça, je me dis, bon, meilleur Leonard qui ferait quelques minutes, qui apporterait sa taille et un peu de dureté, je dis pas non.
D'autant que quand il jouait, il était d'accord.
Ouais, voilà. Et puis, on parle pas du fait qu'il ait perdu quelques minutes, c'est que le mec, il rentre même pas dans le garbage. Enfin, je veux dire, on l'a même pas vu, c'est qu'on fait rien.
Il a pas joué.
Ça fait un peu, je dis pas que c'est le cas, mais ça fait un peu comme quand, en début de saison, on voyait des joueurs comme James Johnson qui étaient vraiment punis, quoi. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est en tout cas zéro minute. Franchement, je me rappelle, en début de saison, il y avait Ethan Skolnick qui disait « Je serais très, très, très surpris qu'en fin de saison, Spoelstra ne change pas son 5 et ne mette pas Bam à 100% en pivot. » Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'il avait prévu ou pas, mais ouais, je trouve ça surprenant aussi. Parce que, même si on dit que c'est Denis Nowitzki… Wow. Bizarre.
Pour une fois, j'ai un œil un peu extérieur du coup, mais là, sans avoir vu le match, je regarde un petit peu les box score et je vois que plus on avance dans. Alors, c'est aussi dû un peu à la blessure de Jimmy, mais plus on avance dans ces 8 matchs là, plus les rotations sont resserrées et on joue à moins,
oui.
On joue à 8, ouais. Voire 9 de temps en temps. Alors, moi, c'est une question que j'aurais à vous poser après, mais DJJ qui joue pas du tout, moi, ça me questionne quand même. Du coup, je ne sais pas si... Est-ce que Spo s'est rendu compte que Myers Leonard en play-off avec justement sa défense pas mal basée sur le switch ou des grands un peu lents, j'ai envie de dire, pose problème? Est-ce que du coup, Spo a décidé de d'un coup passer en mode play-off sur ses 8 matchs parce que justement, on a un calendrier aussi difficile? Ou bien vous pensez que c'est juste un choix, voilà, on le joue encore en mode saison régulière Et puis, il est juste pas là parce que ben, les autres font du bon travail à sa place. Quoi.
Je pense que Spoelstra, il s'ajuste par rapport aux différentes match-up. Quand tu regardes globalement, rien que pour prendre Boston, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'ailiers. T'as pas de vrai grand à part en sortie de banc. Tu peux te permettre de jouer plus petit. T'as les outils pour. Là où on peut critiquer un petit peu, et tu le soulignais, c'est le fait que Derrick Jones n'ait pas vu tant de minutes que ça. Il a quand même fait une vingtaine de minutes contre Boston, mais à côté de ça, c'est que 12 minutes face à Denver. Donc, si tu joues sans Meyers, clairement, tu t'attends à ce que Derrick Jones ait quelques minutes en plus, à voir ce que ça donne dans les matchs qui vont suivre, notamment celui de ce soir. Maintenant, faudra voir. Là, on aura quand même Indiana et OKC dans les prochains jours, si je dis pas de bêtises. Il y a moyen que ça joue un petit peu plus grand. On verra si Meyers revient dans ces matchs-là.
J'ai du mal à y croire quand même. Mais
attendez. Le fait qu'on ait Iguodala et Crowder aussi, ça doit pas l'arranger pour ces minutes. Jones, j'ai pas son nombre de minutes. On va dire dans les matchs où on a eu Crowder et Iguodala avant la bulle, mais à mon avis, c'était déjà bien descendu. Donc pour Jones, je trouve ça plus normal quoi que pour Meyers.
Juste avant de donner la parole à Sam, moi j'ai dans le match de Toronto, j'ai vu au moins de tête comme ça trois systèmes mis en place pour une finition à l'aller-oop de Iguodala. Alors je ne sais pas si c'est les systèmes décidés pour Derrick Jones Jr. Qui finit au aller-oop, mais en tout cas voir Iggy essayer d'aller chercher la balle en l'air et rater un peu sa prise de balle pour la ressortir pour un shooter, ça m'a quand même fait rire. Donc j'ai l'impression que Iggy a récupéré pas mal de minutes, voire quasiment toutes les minutes de Derrick Jones. Et que celui-là, ce dernier, jouera que quand il y aura des blessés ou qu'il faudra jouer des équipes comme Boston, justement, où il y a des ailiers. Sam, toi, qu'est-ce que tu en penses sur le cas de DJJ?
Perso, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, ouais, comme tu as dit, c'est un peu tout. Il y a peut-être le fait qu'il ne soit pas revenu complètement en rythme de sa blessure, le fait que l'entraînement, il n'est peut-être pas encore super bon. Et je pense qu'il y a aussi une grosse partie où, comme d'habitude, Spoelstra, il est assez prisonnier de ses rotations et il ne s'en rend pas compte. Donc, c'était pareil avec James. C'est pareil avec littéralement tous les ans depuis qu'on suit le hit. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse partie de ouais, il ne fait pas trop attention et il ne se rend pas nécessairement compte en plein match des choses dont on peut avoir besoin. Donc ça peut être avoir un pivot par moment qui peut aller chercher des rebonds offensifs juste sur 3-4 possessions d'affilée pour éviter de se faire écraser au rebond, etc. Ou alors littéralement, ouais, le alley-oop qui a été envoyé pour Iguodala, j'ai hurlé en live, c'était quoi ça? C'était pas possible. Le mec, il n'est juste pas physiquement capable d'aller chercher cette balle en fait.
Non, mais c'est ça. Donc,
il ne faut pas lui envoyer ce genre de choses. Et ouais, ça devient dessiné pour DJJ. Après, je pense que Iggy, le fait qu'il redevienne défensivement très bon, parce que là, il commence vraiment à récupérer ses mains et il commence à récupérer du rythme, et du coup, ça c'est ce genre de choses. Je pense que face à Toronto aussi, si DJJ n'a pas vu énormément de temps de jeu, c'est parce que Spoelstra, il a probablement voulu courir derrière le score et que du coup, il voulait un peu plus de 3 points. Mm-hmm. Et à partir de là, c'est un peu plus difficile de faire jouer DJJ parce que même s'il est bon, il est assez streaky, donc il peut en mettre 2 et t'en rater 12. Ça, c'est un problème. C'est pour Meyers, ouais, je pense que c'est surtout une affaire de rythme et de style. Et après voilà, on a joué contre Toronto, ça peut être assez difficile aussi si tu mets Meyers sur Gasol parce qu'il peut se faire bosser. Face à Boston, c'est beaucoup de petits, du coup il a voulu adapter. Je pense qu'on verra aussi sur la suite, mais il y a aussi on réduit les rotations et puis je suis un peu prisonnier de mes rotations, et puis en plus de ça il est peut-être pas trop en rythme, et puis en plus je fais pas attention, qui font que plus Crowder qui comme tu le disais Simon, mais c'est vraiment un joueur qui est bon quand il est inclus, enfin quand il est vraiment implémenté dans l'effectif. C'est ce qu'on voyait un peu au début de. Après son arrivée, il y avait des matchs où il se cherchait un peu offensivement, il trouvait pas vraiment sa place, il n'était pas placé au bon endroit. On sent que ça va de mieux en mieux, ça se voit sur ses shoots. Il a beaucoup plus de shoots ouverts, il a beaucoup plus d'adresse, il est beaucoup plus à l'aise dans tout ce qu'il fait, et du coup, ça impacte un peu toutes les minutes. Et et Olynyk qui rentre ses shoots de temps en temps aussi, ça fait. Tous les facteurs, je pense, font que c'est les deux qui vont le plus en pâtir. DJJ, un peu moins, parce que comme on l'a vu face à Toronto, il a commencé face à Boston, sa zone, elle a beaucoup. Enfin, en zone. A beaucoup servi et pareil, il a recommencé à reprendre un peu de rythme et tout. Donc je pense qu'il va revoir des minutes malgré tout, même si on a besoin un peu, par exemple, si on a besoin de rythme ou de jouer en fast break, etc., il jouera, donc il aura ses minutes, ce qui peut facilement s'implémenter dans un truc comme ça. Pour Meyers, il y a moyen que ça soit un peu plus difficile, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dès le début de la saison. Moi, c'était pas Ethan que j'avais eu en parler, mais je crois que c'était Leif qui disait que ouais, lui aussi, il n'était pas convaincu, même si Meyer, voilà, c'est un top, on a bien vu que c'est un top coéquipier, que tout le monde l'aime et tout, on n'était pas convaincu qu'il allait trouver énormément de minutes en fin de saison. Et je pense qu'on se dirige un peu vers ça. Ça va dépendre face à qui on joue. Par exemple, je pense que même si on tombe face à Philly, même si ça sera BAM principalement sur Embiid, il y a un moment où il ne faudra pas qu'il mange trop de fautes dès le premier mi-temps, et avoir un big qui peut être juste à l'intérieur de la raquette pendant que, bah, je sais pas, disons BAM, il peut switcher sur hors-bord quand il joue, ou alors même sur Simmons quand il drive, etc. Il va servir selon les matchs. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus difficile pour lui que pour le reste de trouver du temps de jeu, je pense.
On va continuer avec Quentin, si t'as un mot sur DJJ ou Meyers, n'hésite pas. Mais je voulais quand même te lancer sur Kelly Olynyk, parce que Sam ne voudra pas y répondre. Kelly Olynyk, assez surprenant. Je ne sais pas comment il a pu trouver ce niveau et exploser d'un coup. Déjà contre Denver, il m'a complètement sidéré.
Le match contre Denver, là, sa deuxième mi-temps, son dernier quart, c'est incroyable. Hein. Il met 20 points dans le dernier quart et c'est un. Enfin, c'est. Et il a mis 3 tirs à 3 points de suite.
Quentin et moi, on était en PLS sur le Discord, c'est pas possible. Quoi.
On s'est retrouvés juste à deux à la fin sur le Discord et on était justement en train de parler en mal de lui. Et là, il met 3 tirs à 3 points de suite. On est là, mais non, ça y est, c'est parti, Bubble Kelly. Et du coup, ouais, voilà. Et
même pour Toronto, il était bon. Hein.
Ah, mais les trois matchs, ouais. Il était super bon.
Les trois matchs, il est très bon.
Contre Boston, je crois qu'il fait 8 passes.
C'est ça, c'est 15 points, 8 passes. T'as la petite vers Robinson qui cut. Non, franchement, il a été très très bon sur ce match.
Il a fait ses 2-3 conneries.
Parce qu'il a des pourcentages au tir depuis le début de l'année qui sont indécents.
Ouais, c'est vrai que son tir a toujours bien marché cette saison et là, ça continue. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il a fait ses 2-3 conneries. Je les ai plus trop en tête, mais c'est du Kelly Olynyk. Hein. Parfois, t'as l'impression qu'il contrôle pas son corps. Mais non, sinon, il a été très bon. Ça. Il a été très bon offensivement, défensivement. Non, franchement.
Non, globalement, il fait son taf. Hein.
Moi, c'est même plus que ça, je trouve. Il est vraiment ultra intéressant et je comprends qu'il gagne en minutes. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il a quand même. Contre Toronto. Il a subi un peu son passif, on va dire, sur cette faute sur Kyle Lowry, enfin cette faute imaginaire sur Kyle Lowry, où du coup la possession nous coûte 4 points et
cette simulation.
Même si on perd logiquement, vu notre dernière minute avec ces deux pertes de balles en sortie de système qui ont rendu fou 5 personnes sur 5 dans l'équipe, mais. Cette possession est assez frustrante parce que du coup il n'y avait rien et qu'on aurait complètement pu emporter ce match. Mais en dehors de ça, il est vraiment. Il m'a complètement sidéré. Dans le même style, mais dans un registre complètement opposé, Kendrick Nunn. Alors moi, du coup, je l'ai très peu vu jouer contre Toronto vu son niveau assez cataclysmique.
Nous aussi, on l'a très peu vu jouer.
Ouais, on a fait des briques par-ci par-là, mais sinon.
Dans l'ensemble des matchs, j'ai l'impression qu'il prend un peu un coup de mou, comme il avait déjà eu une fois cette saison sur un petit moment. Mais là, c'est clairement. Je ne reconnais pas du tout le Kendrick Nunn qu'on avait eu avant. Alors, on parlera après de l'impact du Covid en dernière partie. Mais est-ce que vous pensez qu'il devrait continuer d'être titulaire ou... Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un peu flou.
Je pense que je laisse titulaire pour avoir Dragic en sortie de banc. C'est ça, c'est pour avoir Dragic en sortie de banc avec Hero.
Ouais,
et on a vu que Nunn et Dragic ça fonctionnait pas parce que défensivement c'est un calvaire. Nunn défensivement, je suis désolé, mais c'est catastrophique limite.
Ouais.
Il est pas capable de tenir son match-up en porteur de balle, pas capable de suivre son défenseur à travers les écrans. Enfin, ça devient très compliqué. Alors avec Dragic qui du coup galère aussi parce qu'il est un peu vieux, parce que ceci, cela, tu peux pas les mettre ensemble sur le terrain. Et du coup, bah, autant le garder titulaire et voir Dragic défoncer les bras adverses. Quitte à ce que Nunn galère.
De toute façon, j'ai pas envie d'être méchant, mais quand Nunn il score pas, il reste pas grand chose.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai trouvé très bon sur quand il drivait, au shoot des fois et tout ça. Mais tu sens qu'il est pas tout à fait dans l'osmose de l'équipe. Il est pas, je sais pas.
Peut-être qu'il manque juste un peu de rythme.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire par moment, on dirait qu'il vient d'être transféré et qu'il s'est encore jamais entraîné avec l'équipe. Quoi. Mm.
C'est un peu un... Ouais. On en a déjà souvent parlé, mais c'est un peu un gars qui ressemble à un sixième homme où bah, quand le 5 majeur sort, tu lui donnes la balle, tu lui dis vas-y, fais ton taf, score-nous 15 points et après tu ressors.
Ouais.
Il est un peu dans ce profil-là. Mais...
Totalement. Après, on n'a pas le choix. On est obligé de le garder sur la... Enfin, en tout cas, pour l'instant, en titulaire pour avoir Dragić sur le banc. Mais je pense qu'il y a aussi, ouais, au-delà du fait que bon, il est perdu du rythme et tout, ça reste un rookie en fait, même si bon, voilà, il a 24 ans, blablabla, tout ça, il en a déjà eu et il en aura d'autres. Il a des phases, voilà, où il va passer complètement à travers. C'est ce qui s'est passé à Toronto. Face à Boston, il s'est plutôt bien repris, et ce qui a été intéressant, je pense, qu'il s'est repris très vite. Donc dès le début du match, il a su trouver des bonnes positions. Je crois que c'est peut-être lui à mettre le deuxième panier ou le troisième, je sais plus, bref, mais il prend un bon shoot juste après l'écran. Ok, bah c'est ça. Alors, c'est juste... voilà, il ouvre le score avec un bon écran. Il trouve sa position assez facilement dans le mid-range et il arrive, il met son shoot. Et je pense que c'est ça plutôt l'important. Enfin, en tout cas, pour lui, vu son profil et vu qu'il n'est pas capable d'apporter indépendamment du scoring, même s'il a eu des phases dans la saison où il passait un peu bien, je pense que c'est important, voilà, pour lui, surtout pour un rookie, et à ce stade de la saison, parce qu'on arrive dans les play-offs dans 10 jours, d'être capable de se dire ok, bon, j'ai fait un match de merde, mais je retrouve ma position, et c'est pas au match suivant j'arrive et je force tout pour montrer que je suis dedans. Tu vois, il a joué assez calmement, il a trouvé des bonnes positions, il a été capable de courir le début, il a pas forcé son rôle, et c'est plutôt dans cette optique que j'ai envie de trouver du positif plutôt que de revoir du négatif. Enfin, parce que bon, en soi, le négatif, on le connaît, on l'a déjà dit, et puis voilà, je pense qu'il va pas progresser dessus aussi vite, en tout cas, parce que ouais, niveau vision de jeu, bon, il est encore un peu, voilà, niveau défense, on va même pas en parler, donc voilà.
T'as raison de souligner le fait qu'il ne force pas. Il prend que contre Boston, il prend que 6 tirs, par exemple. Tu vois qu'il a. Est-ce qu'il a senti, ou tout simplement c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit, bon, ça reste à voir, mais dans tous les cas, il a clairement pas forcé. Le fait qu'il se soit un petit peu mis à faire autre chose et tout simplement à ne plus prendre de tir, mine de rien, ne nous a pas pénalisé, donc c'est quand même de ce côté-là, c'est assez positif.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur un joueur individuellement? On n'a pas parlé de Bam parce que il a eu des matchs moins bien et des matchs mieux, mais je pense que de toute façon il reste fidèle à ce qu'il est. Est-ce que vous voulez parler d'un joueur en particulier avant qu'on passe à la suite, ou...
On n'a pas trop parlé de Dragić, qui fait quand même une reprise assez excellente, ouais, je trouve.
C'est vrai.
En sortie de banc.
Et il va bien nous manquer.
Ouais.
Scoring, passe. Scoring, passe, il fait un peu de tout et très bien. Donc,
il met les paniers importants.
Ouais, il clutch. On va dire que c'est un peu le seul qui est clutch, quoi. Il y a eu Robinson aussi contre Boston, mais je me rappelle que la fin de match contre clutch. Toronto, il est déjà pas mal. Ouais.
Clutch est juste dans certaines phases où on a vraiment besoin d'un panier, c'est lui qui va te le chercher. Donc c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Vraiment le leader qui a pu manquer à certains moments.
Ouais. Tyler, vous avez un petit mot sur lui quand même par rapport à ce qu'il a pu faire. Moi, je l'ai
trouvé.
RIP Grant Williams.
Ouais.
Oh là là.
Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Contre un joueur de Boston, c'est trop beau.
C'était. Contre Toronto, je trouve que, en termes de. Moi, mon impression, ça a été qu'en termes d'efficacité, il n'a pas été forcément présent. Par contre, tout ce qu'il était en train de réaliser, tout ce qu'il avait l'intention de faire, je l'ai trouvé vachement juste dans l'idée de ce qu'il voyait. Et même si la finition n'était pas là, j'étais à chaque fois vraiment satisfait de ce qu'il était en train de faire. Après, il s'est frotté face à une défense assez dure, mais je le trouvais vachement juste dans son jeu. Je suis content de retrouver un Tyler à ce niveau-là après sa blessure qu'il a un peu pénalisé, quoi.
Globalement, ce qu'on peut dire sur lui, c'est quand il est, tu sens que la vision du jeu est quand même vachement là et il réagit très vite. Il prend la, ouais. il prend la bonne solution très rapidement.
Truc de fou.
Et puis on le répète.
Ça fait vraiment la différence.
Décision, c'est un truc de fou.
Ouais.
Ça fait des différences, mais de malade sur certaines actions. C'est impressionnant.
On le répétera jamais assez, mais ouais. Son pantalon est assez large au niveau de la ceinture. moi, je vois quand il prend des tirs, ça peut être Kawhi Leonard en face, il le prend, hein, il se pose pas de questions.
Ça, c'est... Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller voir du coup le Twitter de Nekayaz Duncan, bon, vous le connaissez du coup. Il a fait un trade rapidement récap sur Boston, je sais plus, ouais, les deux, Boston et Toronto. Il a vraiment une prise de décision rapide et pour certaines passes, justement, il faisait la comparaison avec Dragic, qui ne l'a pas. Enfin, Dragic, voilà, il a des années d'expérience. Dragic est vraiment très bon et voilà, rien à dire sur lui. Mais il est là, voilà, dans sa prise de décision, il est là. Dans ses drives, il faut qu'il ait son rythme, etc., etc. Hero, c'est vraiment les passes qu'il va envoyer dans le corner ou les passes qu'il va envoyer sur un roll, etc. C'est il sait ce qu'il veut avant de lancer son action et ce qui passe, voilà, c'est ça. Et en fait, je pense c'est vraiment ce qui va faire la différence plus tard quand il va commencer à prendre d'expérience et à prendre de plus en plus de minutes, c'est que il peut dynamiser le jeu, mais de manière tellement impressionnante, que ce soit par lui-même, par son shoot, ou alors vraiment pour servir les autres, etc. Et je pense que ça s'est vachement vu justement avec Olynyk qui devient vraiment vraiment bon pour servir les autres. Et il a vraiment su se servir, bah, justement de la vivacité de Tyler, de ses cuts, de ses shoots et tout, pour vraiment
Robinson aussi face à Boston, la bounce pass là.
C'est ça. Mais en fait, j'allais finir en disant Robinson. Enfin, on a parlé de Hero, mais Robinson, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable.
Il est en train
de devenir beaucoup trop fort. Comment il se sert de sa gravité, mais c'est un truc de ouf. Il est vraiment trop fort. Enfin, je le vois jouer en fait. Je sais que après je crois que c'est après Denver, je l'ai tweeté même, mais je me suis dit, en fait, il y a vraiment pas tant de joueurs dans la ligue, bon, pas tant, il y en a quand même pas mal, mais qui sont plus valuables que lui, parce qu'il est en train de devenir incroyable, que ce soit parce qu'il shoot beaucoup trop bien, ou parce qu'il se déplace trop bien, ou parce qu'il cut trop bien, ou parce que maintenant, il sait s'en servir.
Il est trop
intelligent, et c'est incroyable.
Tu comprends pourquoi Miami était tellement chaud sur lui tu comprends. On va passer un tout petit peu sur une toute petite partie sur ce qui nous attend sur cette prochaine semaine et cette prochaine semaine et demie. Dans l'ordre, donc on jouera cette nuit Milwaukee. Donc vous aurez déjà le résultat du match où Jimmy ne jouera pas, Goran ne jouera pas, Gabe Vincent ne jouera pas et a priori Milwaukee sera au complet. Donc autant dire que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais après ça, on joue Phoenix. Qu'on se doit de prendre, j'ai envie de dire. Un double Indiana qui sera décisif pour le classement final, dont on va parler maintenant. Et au milieu de tout ça, un OKC d'un Chris Paul, Sam, je vais te lancer là-dessus, qui est pas loin d'être MVP là, sur ce mois d'août. Pas loin.
Il est un peu incroyable.
Ouais. Un calendrier absolument dingue. Juste pour dire un calendrier absolument dingue. Avec comme seul petit repos entre guillemets Phoenix qui quand même est solide, donc il va pas falloir se rater. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier et combien vous nous voyez remporter des deux matchs?
J'ai envie de dire 3 en comptant possiblement celui de ce soir déjà qui sera compliqué, pas sûr qu'on le gagne. Après sur les 4, idéalement t'en gagnes 3. Je pense quand même que t'en lâches un. Indiana, ça risque quand même d'être assez serré. J'ai très peur de KC.
Si on doit en gagner 2, il faut que ce soit Indiana. On est d'accord.
Ah, clairement.
Après Indiana, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà le tiebreaker sur eux.
Oui.
Donc c'est déjà 7 prix. Donc si on en gagne un, c'est sûr qu'on, enfin dans tous les cas, on a le tiebreaker. Mais je veux dire, même si on perd les deux. Après, si on fait le taf à côté, on a des chances quand même de finir devant eux.
Faut espérer qu'ils se chient un peu sur leurs deux autres matchs qui leur resteront, deux ou trois matchs qui leur restent. Mais ouais, idéalement, t'en gagnes quand même un contre Indiana pour te donner un petit peu d'air. Phoenix, tu prends. Et si tu peux quand même prendre OKC aussi.
On va voir, mais ça va être relativement compliqué. Après, Indiana n'a pas Domantas. Donc ça peut être
la différence.
Ouais, mais ça a pas l'air de les gêner pour l'instant. Après, bon, ils ont joué qui Orlando, Washington
et Philadelphie qui ont gagné.
Ouais. Donc ouais. Après, ils ont pas joué des gros, donc voilà.
Non, il leur reste les Lakers, mais il faut voir comment ils jouent. Phoenix, ça va. Et il leur reste surtout en fait à côté de nous, enfin au milieu de nous deux, de nos deux matchs, il reste Houston. Donc il va falloir regarder ça, mais. Est-ce que vous préfériez affronter, je pense connaître votre réponse, mais est-ce que vous préfériez affronter Indiana ou affronter Philadelphie au premier tour? Alors Flo, t'as pas le droit de répondre parce que je sais que toi tu préfères Philly.
Je préfère quand même Indiana, je pense surtout avec Domantas en moins. quand même, je me dis.
Sabonis, il est out jusqu'à la fin.
Ouais, je crois que c'est ça.
À vérifier, mais je crois.
Je crois que c'est ça.
A priori, t'es pas sûr, mais je suis parti sur ce postulat, ouais.
Il me semble, ouais, il me semble aussi, ouais. Parce qu'apparemment, il a quelque chose qui est à l'état, quoi.
Ouais, il est, il n'est pas supposé revenir. Après, je pense que, enfin, là, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Simmons qui vient de se blesser.
Oui, j'ai vu ça.
Et on ne sait pas exactement. Enfin, j'étais en train de, à l'instant, en train de répondre à Wesh d'ailleurs, en lui demandant plus d'explications parce qu'il me dit subluxation du ménisque gauche. Bah gros, mais merci, mais moi, je ne sais pas combien de temps ça dure ça.
Alors, de ce que j'ai pu dire, c'est si ça
veut dire normalement. Si Simmons c'est out. En... Ouais. Ah ouais.
C'est déjà plus intéressant.
Ouais, quand même.
Plus intéressant mais c'est... si Simmons c'est pas là.
Mais il devrait revenir plus vite que ça. Mais on peut se poser la question, en tout cas, sur le fait qu'au premier tour, il ne soit pas là. Ça, je pense que bah, ça paraît ça, quand même.
Si 8 semaines, s'il n'est pas là sur le premier tour, en soi, je pense que c'est quelque chose qui peut s'entendre. Parce que, bon, on va voir ce que ça donnera une fois qu'on les jouera. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas joué des grandes équipes jusqu'à maintenant. Mais les Pacers sont en train d'avoir un gros rythme. Oladipo, il a la possibilité de revenir en rythme sans avoir à forcer quoi que ce soit. Et l'équipe tourne bien. Pareil, il faudra voir ce que ça donne face à des gros quand Sabonis n'est pas là, parce que c'est littéralement leur meilleur jour de la saison. Mais en théorie, c'est vrai que si Philly continue de se chercher, parce que là même avec Simmons, ils étaient dans le dur, et s'il continue de se chercher et que son absence elle est vraiment pesante, il y a possibilité que ça soit un match-up plus intéressant, parce que là, on est vraiment dans un. Je pense qu'on est dans un cadre où si on prenait Philly avant. On les prenait avec Philly Indiana, mais il y avait l'avantage du terrain, ça jouait pas mal de choses et tout. Là, on est dans un cadre différent et ça, ils ont l'air d'être beaucoup moins gênés par tout le cadre court. Et ça peut être plus chiant d'arriver face à une équipe qui est grave en rythme, grave en confiance, qui a fait que gagner et qui a des joueurs, enfin des role-players qui tournent à 35 points par match. Et visiblement, lui aussi, il a décidé de devenir trop fort. Que de jouer face à une équipe où, au bout du compte, t'as que Embiid qui est un peu en dedans et le reste qui a du mal, Horford qui se trouve pas, Simon. Laisser. Enfin voilà, je pense que les prochains matchs, justement, tu disais, enfin, tu demandais en quoi ils peuvent être intéressants et tout. Je pense justement ça peut permettre de voir et de se situer par rapport aux deux autres équipes. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se situer par rapport à elles qu'avant. Enfin, je sais qu'avant la bulle, tout ça, bon, moi, je savais que si c'était Indiana, pour moi, on les fumait. Et Philly, ça pouvait être un peu difficile, mais globalement, on était vraiment au-dessus. Là, bah, Philly, il gagne des matchs, mais sans la manière, il gagne quand même. Indiana, il gagne face à tout le monde. Qu'une manière où ça n'a absolument pas de sens. Et nous, bah voilà, on est un peu en dents de scie, hein, avec un calendrier plus difficile, donc j'ai beaucoup plus de mal à évaluer et je trouve que ça peut être un peu difficile justement sur la suite. Donc je pense que ça s'entend plus qu'au début de saison en tout cas.
Ouais. C'est pour ça que là, les deux matchs contre Indiana qui arrivent sont d'autant plus importants, on aura d'autant plus de réponses concrètes.
Après, ça dépend aussi de si on a Jimmy ou pas, si on a Dragic ou pas. Voilà, ça se trouve, on n'aura pas vraiment une vue globale sur le match-up. Parce que justement, on n'aura pas été au complet. Ça se trouve qu'ils vont nous mettre deux branlés parce qu'on n'aura pas Jimmy ni Dragic. Alors qu'en playoff, on va aller leur mettre 4-0. Quoi.
Et si ça se trouve, le premier match, ça va être complètement serré. Et le dernier, vu qu'il y a deux victoires d'écart, ben tout le monde va l'envoyer en l'air. Et puis, on n'aura pas du tout d'idée là-dessus. Quoi.
C'est pas impossible non plus.
Après, pour le match-up en playoff, moi, je veux de la bagarre, je veux Philly.
Oh bah, entre DJ Warren et Jimmy Butler, ça peut être drôle aussi.
Ouais, mais je veux dire la bagarre sur Twitter avec les fans des Sixers, les Adrien Darby de Sixers, machin. Moi, je suis avec Flo là-dessus.
J'aime trop cette
grille. Je suis avec Flo là-dessus.
Pas d'oublier aussi parce que
complètement raison.
C'est un couteau à double tranchant parce que si on se fait éliminer, là, c'est le bunker pendant 6 mois.
Là. Ah bah là, on sort plus, c'est sûr. Mais je pense que Jimmy a qu'une envie, c'est de jouer Philadelphie. Hein.
Je sais pas, il a sûrement envie de jouer TJ Warren aussi, hein, quand même.
Ouais,
après, je pense que les deux match-up,
c'est rien, quoi, tu vois.
Pour être des premiers tours de playoff, quoi qu'il arrive, à mon avis, que ce soit Indiana ou Philadelphie, il va y avoir du storyline, il va y avoir quelque chose à se passer.
Ah oui.
Parce que moi, Jojo Embiid face à nous, c'est aussi kiffant, quoi. Puis Oladipo qui rejoint l'équipe qui l'a éliminé, ce serait drôle aussi, quoi.
La spéciale.
Mais en tout cas, ça va être vachement intéressant de voir ça, et surtout dans quelle partie de tableau, même si je pense qu'on sera forcément et logiquement dans celle de Milwaukee, parce que je nous vois mal rattraper Boston. En tout cas, ça nous promet des 1 voire 2 tours absolument dingues, d'un point de vue niveau. en face. Donc, ce sera super. Ouais, est-ce que vous voulez...
Ça faisait un moment que... Enfin, je veux dire, on a fait un premier tour contre Philadelphie en 2018, mais sinon, on est un peu... depuis 2016, on n'a pas passé un premier tour, quoi.
Ouais, bah, c'est ça.
C'est ça.
Bah, de toute façon, c'est clairement l'année où on attend, hein, parce que là, vu la saison qu'on fait, si on passe pas le premier tour, ça, c'est quand même frustrant. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, du Covid sur, sur l'équipe, parce qu'on est une des équipes à avoir été touchée. Alors, on a quand même beaucoup de questionnements sur, sur l'impact long terme du virus. Même si Kendrick Nunn, DJJ et Bam Adebayo, qui ont été les trois touchés, ont été a priori asymptomatiques, même si j'ai lu que Kendrick Nunn avait quand même ressenti quelque chose. Bam a été asymptomatique. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose de pénalisant sur le long terme ? On sait qu'il peut y avoir des... Enfin, a priori, il pourrait y avoir des séquelles physiques et respiratoires sur les années... suivant le virus. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue sportif pur, on parlera de l'économie après, ça peut avoir un impact négatif sur que ce soit Kendrick Nunn ou Bam Adebayo, parce que DJJ partira peut-être cet été, donc c'est un cas encore à part.
Je ne suis pas médecin, donc je t'avoue que c'est compliqué de se prononcer là-dessus.
Ouais. Ils n'ont pas pu trop bouger pendant deux semaines, qu'ils ont dû, à mon avis... ils ont dû recevoir des indications comme quoi il ne fallait pas faire trop d'efforts et tout ça. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'ils ont pris du retard sur leur remise en forme, peut-être bon, selon soit pour Bam Adebayo, ça peut être le cas. Je ne pense pas que Kendrick Nunn soit mauvais pour cause de ça, mais peut-être qu'ils ressentiront quelque chose d'ici la fin de la compète.
D'accord, donc c'est plus un questionnement sur le court terme cette saison plutôt que sur le long terme, sur les 6 ans à venir, quoi.
Difficile de se projeter à long terme pour le moment, je pense en tout cas.
D'accord, Sam, pas d'avis là-dessus.
Il y avait Gobert qui avait eu, lui, il avait dit qu'il avait justement des rechutes et que de temps en temps, il finissait pas à revenir. Là, ça a l'air d'aller mieux. Je crois qu'il y a un journaliste qui lui a posé une question après, je sais plus quel match, qui s'est fait fumer et ils lui en ont reparlé vite fait. Et apparemment, ça va mieux alors que lui, justement, il avait des trucs qui revenaient. Donc, ça peut être éventuellement bon signe pour les sportifs qui ont été touchés par ce genre de choses et qui ont eu ou non des situations chroniques. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'aller. Mais par contre, je pense que ce que ça a pu impacter, justement, c'est, comme tu disais, Quentin, je crois, leur remise en forme. Enfin, en tout cas, voilà, la reprise et puis se remettre dans le rythme, etc. Ça a peut-être un peu plus joué pour Nunn, justement. Et c'est peut-être une des raisons, parce que voilà, il est arrivé assez tard. Et puis, bon, en plus, non seulement il avait une grosse pause, il vient d'arriver dans la ligue, donc il n'a jamais eu ce genre de rythme. Est-ce qu'en plus, tu le coupes à chaque fois? Ça a pu lui poser des problèmes. Bam, bon, je pense qu'il s'est remis dedans assez facilement. Et puis bon, ben voilà, il a une santé de fer, donc on ne peut que lui souhaiter que ça ne le touche pas. Mais en tout cas, si ça avait été plus long, ou que ça a fini par revenir, ou que ça les affecte sur la suite, ou que ça les affecte au niveau de la cohésion avec le. Enfin, c'est aussi pour ça que même si les 8 matchs, par exemple, ils ne sont pas super intéressants pour tout le monde, ou qu'il y avait beaucoup de gens, dont moi, par exemple, qui voulaient que les playoffs reprennent assez rapidement, ça peut servir pour les joueurs qui n'ont pas eu le temps et qui peuvent se remettre un peu en rythme avec l'équipe. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et même pour ceux qui avaient des situations chroniques, ils vont mieux. Donc, c'est tout ce qu'on peut leur espérer, je pense, en tout cas.
Pour terminer, du coup, d'un point de vue économique, Ethan Skolnick en a parlé dans son podcast et c'est quelque chose qui me questionne beaucoup depuis. On sait que l'impact économique du virus aux États-Unis et dans le monde en général a été très important. Quand on sait que Mickey Harrison a fait sa richesse sur une entreprise basée sur les bateaux et les croisières, c'est quand même un domaine extrêmement touché. Alors j'avais vu les chiffres, mais je ne vais pas les donner parce que je ne suis pas sûr de tout ça. Mais il avait été très impacté par cette crise économique. Est-ce que vous pensez que ça peut être... un problème dans le futur quant à la présence de la famille Harrison à la tête de Miami. Je sais que, du coup, Ethan Skolnick s'est posé la question. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous pensez que ce ne sera pas au point qu'ils doivent vendre Miami ou qu'ils doivent en tout cas partager les parts de propriétaires?
Je ne connais pas assez la situation. je connais pas suffisamment la situation pour vraiment pouvoir m'inquiéter. Maintenant, c'est un bon point à souligner, clairement. Quand t'as un business qui est visiblement quand même assez large et productif, et qu'à côté de ça, t'es propriétaire d'une franchise qui globalement génère quand même pas mal d'argent et qui là du coup a elle aussi été coupée, a vu son élan coupé avec le Covid. Bon, t'es proprio de ces deux business là, tu t'inquiètes un petit peu et peut-être qu'à terme on verra, peut-être qu'on verra une vente, peut-être qu'on verra autre chose, je sais pas. C'est une question à laquelle on peut clairement pas apporter de réponse maintenant, mais c'est un questionnement à garder à l'esprit, ouais.
Je sais pas si vous avez lu l'article d'ESPN justement qui parlait de la situation pour les propriétaires de toutes les franchises et comment ça peut les affecter. Il est assez long, mais il est assez intéressant. Et du coup, je pense que ça m'étonnerait qu'en tout cas Mickey soit affecté d'un point de vue individuel dans le sens. Ça va l'impacter, mais je pense pas que ça soit ok. Toi, Mickey Harrison, tu vas devoir vendre ta franchise. Je pense que ça sera plutôt globalement les propriétaires. La ligue vont être énormément touchés par tout ça, et donc ils vont tous ensemble, entre guillemets, devoir prendre des décisions de groupe. Ça veut dire s'arranger au niveau des salaires avec l'équipe. Il y a une des règles du CBA qui dit que s'il y a des pertes, les joueurs doivent aussi y participer, vu que les revenus sont partagés. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une dynamique globale qui va impacter énormément de proprios et énormément de joueurs, mais je ne sais pas si individuellement tu as tel proprio ou telle équipe qui va devoir se retrouver à vendre, parce que je pense que sinon ça créerait beaucoup de... Enfin, c'est pas impossible, hein. En soi, c'est dans l'article justement, il émet des hypothèses et il dit que celle-ci elle est un peu probable dans le sens où y en a qui seraient beaucoup trop avantagés par rapport aux autres. Après, c'est le capitalisme, c'est comme ça que ça fonctionne, mais là par exemple, ils avaient mis en avant le fait que un des proprios qui allait être beaucoup touché, mais allait aussi pouvoir s'en sortir grandi face aux autres propriétaires de la ligue, c'est les propriétaires de Golden State, parce que voilà, le changement de truc, etc., ils ont des revenus qui viennent de différents endroits, et donc eux justement, ici, dans l'éventualité où t'as des propriétaires qui se retrouvent à devoir vendre alors que d'autres non, Golden State serait une des franchises qui pourrait le plus en bénéficier justement, et je pense que, j'espère en tout cas que la ligue va essayer d'empêcher ça, parce que je pense qu'ils ont assez profité du malheur des autres sur les 5 dernières années. Donc ça serait bien que ça ne soit pas le cas, mais voilà, je pense pas nécessairement que Mickey sera affecté, en tout cas d'un point de vue solitaire, quoi. Ça sera pas lui tout seul, ça sera soit tout le monde ou alors personne, je pense.
D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, avant qu'on termine ce petit podcast un peu freestyle?
Juste pour continuer sur cette ligne, c'était pour dire, est-ce que vous pensez que ça peut influer sur la free agency à venir?
J'allais y venir à ça,
par exemple. On parlait justement, je voulais en parler un peu tout à l'heure, pour Meyers Leonard et Derrick. Est-ce que si ça continue, qu'ils aient quasiment pas de temps de jeu, est-ce que ça aussi, ça peut affecter un peu leur free agency, parce que les deux sont libres cet été, comme on sait, quoi.
Moi, je pense que tout le monde va être extrêmement prudent à cette free agency, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des contrats très courts.
Ouais, c'est ça, il y aura très peu de contrats à long terme, sauf vraiment pour des joueurs que tu veux sécuriser et qui seront... bon, quoi qu'il arrive, mais il n'y aura pas une énorme prise de risque là-dessus, je pense.
Moi, je suis assez d'accord avec Quentin.
De même.
Faut voir qui c'est qu'on priorise sur les quatre. Je parle pour nous, quoi, évidemment. Faudrait voir qui on priorise. Apparemment, là, quand même, on a l'impression que Dragic et Crowder sont plus importants. Mais attention, si Meyers Leonard ne joue pas une minute des playoffs, faut voir ce que ça veut dire pour ça. Son été, quoi.
Bah, de toute façon, Meyers, moi je le vois pas re-signer pour plus que le minimum ou la mid-level. Je sais pas si on est. Donc, dans tous les cas, je le vois pas récupérer en tout cas un salaire comme il est actuellement. Dans tous les cas,
ah oui, non, ça c'est sûr.
Non, non,
son agent a très bien travaillé à l'époque.
Ouais, ça c'est clair. Non, mais on verra. C'est de toute façon, c'est clair, mais que cette crise va impacter après. Si jamais Miami remporte le titre, peut-être que Meyers aura un contrat énorme.
Financièrement, c'est bon pour les droits télé et tout. Je prends.
Ouais. Mais pour en revenir sur Mickey Harrison, moi, c'est ça me... voilà, je vais être vulgaire un petit peu, désolé d'avance, mais ça m'emmerderait vraiment qu'il soit obligé de lâcher une partie pour, à cause de cette crise-là, parce que c'est quand même des proprios qui nous accompagnent depuis le début de la franchise. Et bah, même si on pense toujours à pas trahir, à Spoelstra et tout ça, ils font aussi partie de la franchise et sont là depuis le début, même avant Riley. Donc, perso, en tout cas, c'est... ça m'embêterait vraiment que cette crise leur oblige à lâcher en tout cas une partie ah, de, oui. de la franchise.
Ouais, je ne sais pas s'ils, sont, s'ils ont d'autres, on va dire, d'autres investissements, d'autres business et tout ça. En plus, il y a le fils de Mickey qui est aussi bien implanté dans la franchise. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Après, tu sais que... En Floride, il y a des lois spéciales. Ils ont apparemment un gouverneur qui est très, très spécial aussi, qui, aussi, aussi idiot qu'il soit, favoriserait le business de Harrison. Donc, je ne me ferai pas trop, trop de soucis, mais ouais, j'imagine que ça, ça peut avoir de l'influence sur cette
business en général, celui-là.
Enfin, ouais. On verra bien. Et de toute façon, on aura, parler, mais... on aura des nouvelles après les playoffs, je pense. Quand on parlera un petit peu de la saison suivante, on en saura un petit peu plus de ce côté-là et des finances globales. Je pense que Forbes fera parfaitement son travail de recherche comme tous les ans. Et donc, on en saura un petit peu plus. Avant qu'on se quitte, bien évidemment, on va lâcher un prono pour ce soir, étant donné qu'on est à quelques minutes du début du match. Quel prono, quel score pour ce soir? Voilà, je me lance d'abord. Ouais, Milwaukee merci. Plus 15.
Milwaukee plus 7.
Ouais, franchement, je vous suis à peu près. Milwaukee plus, ouais, plus 10 à peu près. Ça peut être, ça pourra être pire.
Voilà, ce que j'espère pas, c'est que je veux qu'on perde ou de 15-20 ou qu'on gagne. Parce que perdre dans le clutch encore, ça me foutrait trop les boules.
On est d'accord. Personne ne met Miami alors.
D'accord.
Mais.
J'ai du mal avec ça.
Ouais, j'ai du mal avec ça. On peut aussi parier sur qui c'est qui va step up, qui c'est qui va faire son gros match, vu qu'il manque Dragic et Butler. Ça.
Meilleur scoreur du soir. Il n'y a pas Dragic, il n'y a pas Butler et surtout il n'y a pas Gabe Vincent. Meilleur scoreur du soir.
Tyler, Bucket, Dommage. Hero.
25 points de Tyler Hero, c'est parti.
Ou alors Duncan, c'est personne.
Un maxi match, un petit 30 points de Hero, ça va.
Il va mettre, il va mettre Chris Middleton dans sa poche, tu vas voir.
Vas-y, moi, je tente le pari Kendrick Nunn, meilleur marqueur.
Oh là là, ce Black, ça serait très, très intéressant.
Je crois que j'ai une naine, moi.
Ça me plaît bien.
Non. Allez,
héros. Moi, je vais continuer sur la série en cours, je mets Kelly Olynyk, moi. Le Kelly Olynyk game.
Ah ouais. Donc, c'est quoi, non, je vais dire Bam, quand même.
Il va postériser Giannis qui est on va voir. Bon, allez, on se quitte là-dessus. Là. De toute façon, on se retrouve tous dans deux semaines pour faire la preview des playoffs face aux Sixers, je suppose. Et puis, on parlera de tout ça plus en profondeur dans un détail un peu plus important. Bonne soirée à tous. Bonne fin de saison régulière un petit peu bizarre. Surtout, faites attention. Portez vos masques quand vous sortez.
Toujours.
On espère que tout le monde va très bien. À bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, le site, les logiciels de podcast et les propagateurs et tout ça. À très bientôt. Bonne soirée. À plus. Ciao, ciao.
Salut.
Salut. Salut.